Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Anna Vida. Bonjour Anna.
Bonjour.
Bienvenue dans la tête d'anarchie. Anna, vous êtes architecte, vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Vida Architecture et qui existe depuis 2016, c'est bien ça?
Exactement.
Bon, on va démarrer ce podcast. J'aime bien démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte?
Bonjour. C'est une question qui est assez compliquée parce que j'ai jamais eu autour de moi des architectes. Mmh. Donc, je savais pas ce que c'était exactement le métier d'architecte quand j'ai décidé de postuler à l'école d'architecture des Grenades où j'ai fait mes études. Mais j'avais l'impression que c'était des études en tout cas qui touchaient à beaucoup des métiers. Pas uniquement la maîtrise d'œuvre, mais qui avait aussi la maîtrise d'ouvrage, qui avait aussi un côté social, qui avait un côté technique, et qui avait un côté surtout de s'occuper des gens et du cadre de vie qui m'intéressait. Et ces côtés entre technique et plus créativité, c'était les justes milieux, et qui était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Moi, j'avais dit d'une filiale, c'est passé le moment, d'un parcours technique. J'ai fait ses maths, chimiques, tous les branches techniques, physiques. Et ça m'intéressait beaucoup de continuer sur quelque chose de technique tout en mouvant sur d'autres domaines comme la sociologie, le dessin, et ouvrir sur tous les regards. Donc voilà. Comment j'ai décidé de devenir architecte, c'était un peu par hasard parce que j'ai eu l'intuition que c'était un métier qui pouvait rassembler beaucoup d'inquiétudes que j'avais quand j'avais 18 ans au moment de choisir. Et finalement, il s'avère que je ne me suis pas trompée.
Merci beaucoup de nous avoir décrit ton parcours et de voir que oui, dans les études, il y a un moment où il faut faire des choix et il faut se faire confiance à ses intuitions. On va parler maintenant du début de ton agence. Peux-tu nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de ton agence d'architecture?
En fait, c'est vrai qu'une fois que j'avais fini l'école d'architecture, j'avais pas forcément en tête d'avoir une agence d'archi parce que quand on a 23, 24 ans, quand on finit, on sait pas trop. Et j'ai commencé à travailler dans des agences, j'ai travaillé un peu en Espagne. Mmh. Et puis en France chez XTU Architecte, et en parallèle j'ai fait toujours des concours avec des copains parce que j'ai trouvé ça amusant, que j'aimais, c'est une façon d'aller chercher ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc il y a ce côté de vouloir être un peu de prendre les choses en main de façon propre. Et en 2014 on a été sélectionné pour avec deux copains on a été sélectionné pour sur un concours ouvert pour la construction d'un siège social d'une entreprise qui s'appelle Weltopia en Sofia en Bulgarie. C'était le siège social, une entreprise qui fait des murs d'escalade. Et en fait, d'accord, il y a eu un concours ouvert à plus de 350 candidatures en projet. Et on avait été entre les 5 sélectionnés pour avoir un entretien avec les PDG, un petit passer devant les jurys. Et bon, donc c'était un peu les moments où ça nous a titillé pour dire finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en solo. Ça, c'était en 2014. Et j'ai un peu continué avec cette idée. Et en 2016, je me suis dit que c'était le moment peut-être d'aller essayer de mon côté de voir ce qu'il était capable de faire tout seul sans être dans le monde de l'architecture par les salariés. Donc j'ai gardé un peu deux chantiers que j'avais chez XTU et je me suis mis à mon compte en gardant un pied un peu pour avoir un appui économique pendant 2 ans chez XTU et puis commencer à faire mes projets.
Merci beaucoup pour avoir détaillé ton parcours. Ouais, c'est très bien. Et c'est pour ça que j'aime bien évoquer cette question-là, parce que derrière chaque création, il y a toujours une histoire, et je pense que ça peut donner des idées à plein d'autres. Comment décrirais-tu la philosophie de ton agence d'architecture?
Bon, ça, c'est quelque chose, philosophie, c'est un grand mot. C'est quelque chose qui évolue. Nous, on parle plutôt, moi, j'aime bien parler des thématiques qui nous intéressent. Donc, on a, à ce moment, on identifie très clairement 4 thématiques qui commencent à se nourrir d'autres choses. Mais c'est, d'un côté, on aime bien travailler l'architecture par l'usage. Nous, on fait beaucoup des logements à l'agence, principalement. Et on s'intéresse beaucoup à la façon dont les espaces sont appropriés. Donc, ça, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup. Une deuxième thématique, c'est travailler avec les systèmes. Travailler avec les déjà là. Mm-hmm. J'ai entré la création en 2016. Et aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire aussi un DS architecture et patrimoine. Donc, je suis normalement... censé être spécialiste à l'intervention sur l'existant. Et on travaille beaucoup dans des patrimoines, souvent patrimoines des années 50, 60, du 20e siècle, et avec l'idée que tout existant peut être réhabilité et peut conduire à une nouvelle vie. Donc, ça, parfois, c'est des patrimoines un peu incas, mais cette idée de travailler avec quelque chose qui existe déjà, ça nous intéresse beaucoup, donc c'est un thème assez récurrent. Et même quand on fait du neuf, on essaie toujours de se référer à une situation existante. Ça, c'est une situation européenne, ça peut être une situation, un contexte social ou culturel, un contexte aussi de savoir-faire des entreprises. Donc, on essaie à chaque fois de s'accrocher à un existant. Une troisième thématique, c'est le, ce que, je pourrais dire, c'est les vernaculaires contemporains, ce qui est dire que finalement, aujourd'hui, on n'a plus cet artisanat dont on rêve souvent. On voit les architectes comme Peter Suntor qui arrive encore, ou tous les architectes suisses auxquels on fait référence souvent, qui arrivent encore à mobiliser des artisans. Mais la réalité du VTP français, c'est finalement, c'est des éléments plutôt industriel, c'est un savoir-faire qui est moins sachant que celui de l'artisan. Et on essaie de composer avec ça pour dire qu'aujourd'hui, les vernaculaires, c'est aussi une composition à base de produits plutôt industriels, mais qui peut s'inspirer de l'existant. C'est un peu des thématiques qui se croisent et qui peut aussi s'approprier des sous-sages ou laisser s'approprier par les sous-sages plutôt. Regarde. Ça, c'est une thématique qui est pas facile à expliquer, mais qui commence à nous, enfin, en tout cas, qu'on développe pour chaque projet, on essaie de nourrir. Il y a un dernier axe qu'on développe à l'agence on travaille pas mal dans les territoires sur un projet qui est des coordinations avec les parcs naturels régionaux de la région Grand Est. Et c'est une sorte de projet de recherche-action. Donc, on travaille pas mal avec les acteurs locaux. Donc, j'aime pas les mots participatifs, mais plus de dire qu'on est ouvert au dialogue et qu'on essaie d'intégrer tous les acteurs, que c'était une sorte de parlement. Donc, il y a tout le monde est représenté. Il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a les règles techniques, il y a les intérêts de la ville, il y a les intérêts des futurs usagers. On essaie, nous, d'être un peu garant de la représentation de tout le monde pour que finalement, dans les projets, comme dans un parlement, on arrive à articuler les besoins de tout le monde. C'est en fait une quatrième thématique. Et je vois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et d'autres outils qui s'ouvrent à nous, d'autres thématiques qu'il faudrait explorer pour voir comment est-ce que les architectes ont pu s'approprier ces outils pour pas être dépassés par tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas encore des propos sur ces sujets.
Merci pour d'avoir donc décrit ces 4 piliers de la philosophie de ton agence. Est-ce qu'il y a un projet que tu as réalisé qui te tient particulièrement à cœur?
Pour pas être trop longue, oui. En fait, sincèrement, il y a un projet que j'ai beaucoup encore, c'est les premiers projets que j'avais construits, c'était des amis de mes parents qui se faisaient une maison en Espagne. Et ça a été, c'est une maison qui a été un peu publiée, qui s'appelle la Casa de Pobre, parce que les clients s'appellent Raquel et Ramon. Donc, elle est double R. Ouais. Et c'était le premier chantier que j'ai fait avec une copine qui s'appelle Marta Lomas, architecte qui a géré le chantier en Espagne, parce que j'étais déjà en France. Et c'est un projet qui est très, très simple. C'est juste de la géométrie avec très peu d'argent, finalement. Je crois qu'on est à moins de 600 euros de mètre carré pour une construction neuve. Même pour Espagne, c'était pas cher. Et tout l'objectif, c'était de faire les murs porteurs, les minimums de matière, des baies à galandage qui poussent s'ouvrir complètement pour que la maison en été soit une sorte de porche, qu'il n'y a pas de limite entre intérieur et extérieur, avec une capacité à évoluer. Donc, on a prévu des espaces qui pouvaient se fermer dans le futur, si besoin d'une douzième chambre, un autre enfant qui arrive ou autre chose. Et on avait un peu travaillé avec la maison Passe espagnole, mais en faisant deux passes plutôt qu'un, pour que la famille puisse être ensemble, mais pas tout le temps, qu'il y ait une sorte d'intimité. Et c'était un process assez long de discussions avec la famille qui n'était pas habituée, comme normalement tous les particuliers ne sont pas habitués à discuter avec les architectes. Ils font ça une ou deux fois dans leur vie. Et c'était un bon souvenir et du processus et finalement du résultat qui était super par rapport au budget qu'on avait. On avait réussi à faire quelque chose qui en plus s'apprenait la tâche au vernaculaire dessous de l'Espagne.
Ben merci pour la description de vos projets. Je pense que moi, comme les auditeurs, on ira tous voir les images. Quelles sont les difficultés, d'après toi, que rencontre une agence d'architecture pour emporter des projets, des concours?
Malheureusement, beaucoup de difficultés. À ces moments, je tiens à dire que la difficulté que nous, on voit le plus au début de l'agence, la première difficulté, c'est évidemment le fait qu'on n'a pas de références, qu'il faut se faire des références. Donc, nous, on avait fait pas mal de concours ouverts. Comme on nous demandait de faire une faisabilité, on faisait vraiment un projet, on faisait une image. Là, on aura le temps peut-être de parler de ces images plus tard. On faisait une image pour faire une référence. Vraiment, on est capable de faire ça. Et donc, ça, c'est la possibilité. Maintenant qu'on commence à avoir quelques références, en même si la question de la référence, elle est toujours là, parce qu'aujourd'hui, on essaie d'aller dans des budgets un peu plus élevés. Et donc, il nous faut des références de moins de 5 ans ou moins de 300 sur des projets du même type avec un budget similaire. Donc, la question de la référence est toujours là. Mais après, une fois qu'on est dans un concours, une fois qu'on a été sélectionné, c'est souvent que les règlements de consultation, les programmes sont parfois contradictoires. Ils sont tellement figés. Jusqu'au millimètre près, jusqu'à nous dire au moment du concours qu'on doit faire un lavabo à pied ou de tel type ou de telle taille, qu'on a du mal à avoir la place de la capacité de projeter quelque chose qui sort un peu de l'habituel. Donc vraiment, et dès qu'on le fait, on est soumis à des commissions techniques qui vont évaluer avec des grilles, parfois qui manquent un peu de bon sens. Et je pense que ça, c'est la difficulté. Quand on est dans le concours, comment est-ce qu'on peut s'affranchir de tous les contraintes qu'on nous met pour faire un projet qui soit en accord avec ce que nous, on pense qui est bien pour l'usage qui va avoir les bâtiments, finalement, qu'on va construire, tout en essayant de répondre aux cahiers des charges qui sont parfois aberrants. On a parfois des cahiers des charges qui font 200 pages. Donc c'est aujourd'hui, c'est une difficulté. On a l'impression qu'on a un peu les pieds, les mains liées par des contraintes, des couches qui se superposent, des réglementations qui ne séparent pas entre elles. Et nous, on essaie de les faire parler. Et quand on y arrive, c'est super. Mais ce n'est pas parce qu'on y arrive que la commission technique va comprendre qu'on est arrivé. Voilà, je sais pas si c'est très clair, Mais la principale difficulté, c'est vraiment d'arriver à, avec toute cette quantité d'informations qu'on manipule, à faire un projet qui soit bien. Et au-delà que le projet soit bien, avec lequel nous, on est content, que ça soit jugé dans sa juste mesure.
Donc, voilà. Mais c'est bien. Voilà. Pour ça que j'aime bien dans ce podcast, c'est poser cette question-là, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes problèmes. Et ce que tu as mentionné, jusqu'à présent, personne ne nous l'avait mentionné. Et du coup, ça, c'est encore une nouvelle information qu'on apprend tous. Et merci à toi, Anna. Dans ce podcast, on aime bien parler d'architecture, bien sûr, mais aussi d'image. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour ton agence?
En fait, nous, on travaille tout le temps en BIM. Donc, on travaille toujours en 3D. Déjà, on voit ce que ça fait. Souvent, on a des logiciels pour faire du render pour nous-mêmes, pour discuter entre nous, pour discuter avec les clients. Pour discuter avec les clients, c'est bien. Ça dépend des clients. Mais oui, c'est important d'avoir des images. Nous, on aime bien contrôler la matérialité. Même quand on fait pour les concours, on fait appel à des percements, à des gens extérieurs pour faire les images. Mais dans ces cas-là, nous, on les teste avec nos logiciels pour savoir à peu près ce qu'on veut. Ça n'a jamais la même qualité, non. Mais ça nous permet de tester des matériaux, de tester des mises en œuvre, des, par exemple, des calpinages, des combinaisons de couleurs pour pouvoir agir directement sans attendre un retour. Et ça nous permet aussi d'avoir ces dialogues avec les clients, souvent sur des phases qui sont des phases intermédiaires, dans lesquelles c'est juste des discussions rapides. On peut, les images servent à appuyer un propos. Après, il y a aussi les limites de l'image. C'est qu'on fige parfois certaines choses. Donc, il faut l'utiliser de façon intelligente. Donc, on aime bien l'utiliser sans trop abuser. C'est-à-dire sans faire 10 images. On essaie de faire une ou deux images qui soient parlantes, mais qui laissent aussi un peu des mous, on va dire, pour pouvoir faire des améliorations, des évolutions, et pas figer tout le, par exemple, tous les intérieurs par des images. On essaie d'être précis dans ce qu'on fait.
D'accord, bah merci pour la description. C'est bien aussi, comme tu dis, que vous fassiez des tests sur les matériaux et tout, comme ça, quand après vous nous alimentez, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et non, c'est plutôt très bien.
Pas du tout, parfois on essaie.
C'est pas facile, hein. Surtout que qu'on a rendu autre, ça permet de voir et on veut voir aussi autre chose. Est-ce que l'image vous aide également dans le développement d'un projet avec vos clients, l'image dans sa globalité?
Oui, en fait, je pense qu'il y a un peu répondu, effectivement, ça nous aide pas mal parce que ça permet surtout avec les non-sachants. Oui. Ça permet de discuter des compositions dans l'espace, des relations entre un intérieur et un extérieur, entre différents espaces. Des relations voisines, donc c'est, effectivement ça aide. Et comme je disais, il y a aussi les limites, c'est que parfois l'image peut monopoliser la parole, c'est-à-dire que quand on parle d'un projet, des 15-20 logements qu'on fait en ce moment, si on est avec des gens non sachants, peut-être que l'image va attirer l'attention pour discuter des goûts et des couleurs, comme on dit.
Oui.
Pour laisser pied à exprimer des goûts, alors que tout l'objectif, c'est plutôt parler d'usage, d'organisation spatiale, des rapports à l'existant, des rapports à... normalement, on travaille dans un milieu urbain dense, donc des rapports à la vie. Donc, il faut... quand nous, on travaille avec les images dans un projet, ça vient toujours un peu à la fin. Une fois qu'on a un peu discuté de tout, parfois on fait des axonométries, on fait des images, on fait des choses à ligne pour pouvoir parler des fondamentaux du projet. Et l'image vient un peu pour affirmer ce qu'on savait déjà, pour éviter que ça soit les premiers objets de regard.
Merci, mais c'est ça que c'est important. Ça, c'est des images, c'est bien, mais il faut les utiliser bien comme il faut pour éviter d'avoir d'autres questions qui vont polluer le développement du projet.
Effectivement.
Si on revient un peu à l'architecture, y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré?
Beaucoup. Il y a beaucoup. J'y voyage beaucoup et j'y regarde beaucoup je voyage beaucoup. Je voyage que je peux. Et quand je voyage, je regarde souvent l'architecture. Je vais aller voir des bâtiments. Mais c'est vrai que quand j'y pense à quelque chose comme ça, qui me touche beaucoup, je pense j'ai deux bâtiments très anciens. J'ai la mosquée des Cordus, qui est un bâtiment qui a été fait dans le 17e ou 12e siècle par extension successive.
D'accord.
Qui a été fait entièrement en réemploi. Donc, tous les colonnes ont été réemployées des anciens palais visigodes. Et qui parle justement de comment un dispositif conceptuel, une trame, peut permettre de faire... je crois qu'il y en a eu 4 extensions et qu'on arrive à comprendre toujours les tout.
D'accord.
Donc c'est vraiment... sachant qu'en plus, plus tard, je pense que c'était au 15e, non, au 13e ou au 14e siècle, peut-être un peu plus tardivement, 15e siècle, je me souviens plus exactement de la date, il y a eu une cathédrale qui est venue s'installer au milieu. Il y a un dialogue entre la mosquée et la cathédrale. Il y a eu une intelligence de l'époque de garder l'existant et de s'intégrer dedans, qui fait qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Et donc, je pense souvent à la mosquée. On parle aujourd'hui des réemplois et des rapports entre les désirs là et l'existant. Je pense souvent à la mosquée des Cordus. Après, plus contemporain, j'aime bien les projets où on a l'impression que ça a toujours existé. Je pense par exemple au musée d'art romain de Raphaël Moneo à Mérida, qui en fait s'est construit en briques et on a l'impression que ça a été toujours là. Il y a un parcours de visite des ruines romaines. En fait, quand on est dedans, on a l'impression qu'on est dans une construction romaine. On pourrait pas les dater. Il y a parfois des détails qui nous disent l'époque dans laquelle ça a été fait, mais on a l'impression que ça va traverser les siècles sans souci.
Merci d'avoir détaillé ces beaux projets. Je pense que moi, comme les auditeurs, on va tous aller voir les projets que tu as pu mentionner. Merci à toi. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui te passionnent le plus?
Alors, aujourd'hui, c'est tout. Je regarde beaucoup ce qui se passe en France, évidemment, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Et je pense qu'en Europe, il y a quand même une très, très bonne architecture qui a des particularités spécifiques, mais qui a aussi une tendance à une sorte de rationalisme, des nouveaux rationalismes. On est des architectures assez dépouillées, des formes comme on a pu avoir dans les années 2000. Qui était là que pour l'esthétique ou que pour dans une approche très star-architecte et formelle. Et aujourd'hui, on sent qu'on se recentre sur les choses fondamentales, sur une sorte de sobriété, du bon matériau au bon endroit, de la juste quantité des matières, de rapport au soleil, au climat, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est une architecture qui devient une architecture savante et qui devient un peu de plus en plus spécifique à son territoire. Donc, je pense que c'est les SAJAP 2020-2023 en France. Ils parlent aussi d'autres façons de faire architecture, d'autres métiers de l'architecte qui m'intéressent beaucoup, d'autres façons de faire la conception. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de magma, des choses qui se passent, qui sont intéressantes, qui font évoluer les métiers et qui nous touchent pas, en tout cas que moi me parle beaucoup et qui augure d'une architecture un peu plus située. Et ce qui est plutôt pas mal à l'époque où on est dans une crise climatique, où on a l'impression que la globalisation est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait apporter.
Justement, quand tu parles du futur du climat, quand on pense au futur, on pense forcément à la planète écologique. Comment intégrez-vous dans vos conceptions les préoccupations environnementales?
En fait, on essaie de les faire avec le bon sens, ce qui n'est pas toujours le cas de réglementation. Et je reviens un peu sur, on a un peu parlé au moment du concours sur toute cette espèce de couche de réglementation. Finalement, c'est pas entre elles et Et j'ai l'impression que finalement, on perd un peu le bon sens. Quand nous, on essaie de répondre en utilisant les minimums de matières possibles, en essayant de travailler avec des matières qui sont plus carbonées, mais en essayant de mettre de l'intelligence, quand on utilise de la brique, et que la brique aujourd'hui, elle a un bilan carbone qui est très mauvais pour l'ACV. Mmh. Mais parce que c'est, le bilan carbone, il est pris sur, je crois que c'est 50 années, alors que la brique, elle a une durée de 200 ans. Mmh. Donc, en fait, c'est toutes ces choses qu'on essaie, nous, de pas se laisser, mettre dans des, en fait, pas répondre bêtement à la réglementation, mais essayer d'aller, de voir un peu plus large pour, intégrer la question de la pérennité, de la matière renouvelable, par exemple, on est contre les tout bois. D'où vient le bois? Où est-ce qu'il a été usiné? Parce que souvent, les bois qu'on utilise dans la construction, il est usiné. Oui. C'est quoi les bilans carbone d'un bois qui a été usiné en Chine? Ou en Russie? Maintenant, plus la Russie, mais voilà, il y a tous ces, l'école, quelle quantité d'école, comment est-ce qu'elles ont été utilisées, où? C'est vrai que, on apprend aussi tous les jours, mais on revient aussi un peu à des choses d'éthique. Plus on est sobre en matière, plus on est économique aussi en énergie. Oui. Donc c'est un peu la base que nous. C'est, on essaie de mettre du bon sens. Évidemment qu'on va, on respecte la réglementation, mais dans ce respect, on essaie d'être un peu, d'aller au-delà de ce qu'on nous demande. Ce qui est pas facile.
Ouais. Merci pour cette belle description. Et oui, c'est déjà la fin de ce podcast. C'est très vite. Merci beaucoup, Anna.
Merci.
Pour ce moment d'échange autour de l'architecture et l'image. Moi, comme à chaque fois, j'ai encore appris plein de choses. Merci beaucoup. J'espère que les auditeurs ont passé également un bon moment en nous écoutant. Je dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers captivant de l'architecture dans la tête d'un archi. Merci beaucoup, Anna. Et à très
Merci
bientôt.
Merci beaucoup, Chaye. À bientôt.
Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.